Mémoire vive,
présentée par Ève Cheftel,
préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour Serge Bamberg.
Ève.
Vous êtes producteur, vous dirigez Lobster Film et vous avez réalisé avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah un coffret de DVD qui s'intitule « Trésor du cinéma yiddish » et qui permet de voir des versions restaurées de films yiddish qui ont été choisis pour leur caractère emblématique. On a des films très différents, des classiques du cinéma yiddish comme Die Book ou TV le laitier, mais aussi des films qui sont entre le documentaire et le film de propagande, entre guillemets. Les uns tournés avant-guerre comme Mir Kumen On, qui avait pour but de lever des fonds pour le sanatorium Medem du Bund, et d'autres tournés dans l'immédiat après-guerre comme Lang is der Weg, pour sensibiliser le monde juif au sort des personnes vivant dans les camps de personnes déplacées. Et aussi des films sur les maisons d'enfants en France. Voilà, nous allons reparler de tout ça. Avant tout, Serge Bamberg, comment est né ce projet de coffret ?
C'est une très longue histoire qui est aussi longue que la vie. En réalité, je suis né d'une famille d'origine juive et j'ai choisi de faire ma vie autour de la restauration de films anciens en règle générale. Il m'a fallu 30 ans avant de réaliser que l'une des choses très importantes que j'avais à faire sur mon chemin était de, quelque part, joindre l'utile et l'agréable, réunir mon métier, ma passion et mon identité même, et dédier une partie de mon activité à la restauration de films qui racontent d'où je viens et qui nous sommes. Ça a été le début d'un projet donc, qui s'appelait au départ Mir Kumen On. Je raconterai peut-être comment nous sommes arrivés à restaurer ce premier film, et nous avons eu tellement de joie, tellement de bonheur à faire revivre ces moments qui semblaient à jamais perdus, que nous avons décidé d'étendre la démarche et, avec l'aide de la Fondation pour la mémoire pour la Shoah, à pousser le geste jusqu'à faire ce coffret de 4 films intégralement restaurés.
Alors, commençons pourquoi pas par Mir Kumen On. Donc vous dites que ça a été... Voilà,
L'histoire est très drôle en fait. J'ai une voisine très connue évidemment qui s'appelle Léa Minceles, la femme d'Henri, et il passe souvent devant ma boutique, qui est une... Voilà, ma société est une boutique, et un jour ils sont rentrés en disant Léa voulait voir Mir Kumen On qu'elle n'avait pas vu depuis les années 40. Et elle n'arrivait pas à le trouver. Je lui ai dit, mais ne t'inquiète pas Léa, moi je restaure des films, je vais te le trouver. Et puis voilà, et sauf que je ne le trouvais pas, et pour cause, il n'existait plus. Et elle, par contre, toutes les semaines, passait devant ma boutique en disant, alors ça y est, tu l'as trouvé. Et il a bien fallu à un moment qu'on s'y mette très activement, et grâce à la collaboration de la Cinémathèque de Varsovie, qui avait un fragment de copie sous-titré en danois, à la Cinémathèque de Berlin, qui avait un fragment intégralement en yiddish, mais un fragment quand même, et au Musée d'Art Moderne New York, qui avait un contre-type, c'est-à-dire un élément négatif complet, mais maculé d'une voix en anglais sur le yiddish et de sous-titres sur l'image. Avec ces 3 éléments-là, nous avons jonglé, utilisant les technologies numériques, et nous avons réussi, dans ce grand plan de restauration internationale, à retrouver le film de l'époque, qui est un film très important, puisqu'il a été fait par, c'est l'un des premiers films faits par Alexander Ford, qui a été ultérieurement le fondateur de l'école de Varsovie de cinéma, où ont été formés Polanski et Andrzej Wajda. Donc c'est l'un de leurs maîtres. Il a même eu, je crois, un Lion d'or à Venise dans les années 50. Donc le film est un geste cinématographique absolument passionnant. Certes, comme vous l'avez dit, il s'agissait de filmer de manière un petit peu romancée, et même en réalité assez romancée, comme on le faisait à l'époque. Vigo l'avait fait sur Zéro de conduite, la vie dans un sanatorium, et l'idée était de montrer ce film d'une heure aux diasporas pour leur dire, ben voilà, envoyez-nous de l'argent, le Centre Medem a besoin de votre financement pour exister. Malheureusement, en 1942, évidemment, le centre a été rasé. Tous les habitants, tous les occupants, que ce soit le personnel d'encadrement et les enfants, ont été déportés. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde ce film qui est bouleversant de vie et d'enthousiasme, on ne peut que se dire que finalement, leur flamme et leur combat est éternel, elle est en nous, et qu'il faut se battre pour qu'elle continue.
C'est vrai que c'est assez poignant de voir ce film, parce que ce sanatorium, il faut voir que ce n'était pas simplement une clinique où on prenait en charge des enfants malades. C'était une utopie pédagogique. Les enfants étaient libres. voilà.
Je crois que le mot d'utopie est absolument parfait.
C'était un peu les conseils ouvriers, mais là, c'était comme République des enfants.
Absolument. Le concept de République des enfants est exactement là. Alors, ça a été repris après en France, à Brunois, à Corvol ou dans des endroits comme ça. Mais les fondamentaux étaient déjà là. C'est les enfants qui choisissent, qui élisent, qui décident ce qu'ils vont faire dans la journée. Ils sont très encadrés. C'est destiné à une population qui vit dans les grandes villes où elles vivent de misère.
Très misérable, oui.
Très peu d'éducation et surtout, elles risquent évidemment la tuberculose et toutes les maladies qui peuvent passer par là. Donc, quelque part, c'est en quelque sorte des quelques semaines ou quelques mois de remise en forme et où, quelque part, les enfants regagnent le droit à être des enfants et à avoir la responsabilité de la vie ensemble.
Un apprentissage aussi de la vie en société, aussi une transmission des idéaux socialistes.
Absolument, à travers des chansons, à travers une gestuelle, à travers un rythme. En fait, c'est véritablement un voyage dans le temps. C'est probablement le film le plus éblouissant que j'ai vu depuis longtemps. Alors, ça a l'air de rien, ouais, documentaire, une heure sur la vie dans un... En réalité, c'est une cure d'énergie, d'enthousiasme, de jouvence. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu, avec en plus ce cadeau merveilleux qui est de voir et d'entendre des enfants qui parlent yiddish. Aujourd'hui, le yiddish est une langue apprise, sauf dans certains endroits extrêmement ponctuels dans le monde. Mais la réalité, c'est que ces enfants-là parlaient yiddish avec leurs parents, un peu comme mes parents parlaient yiddish avec mes grands-parents. Et c'est vrai que le yiddish est une étape que je n'ai pas franchi, mes parents ne m'ont pas appris à parler yiddish et d'une certaine manière c'est ma manière d'assurer que leur voix, que leur langage, que leur monde perdure, qu'il est là et que je vais pouvoir le transmettre à mes enfants et j'espère que toute une génération va pouvoir transmettre le souvenir de ce monde autrement qu'à travers quelques photos et quelques images évidemment tragiques que nous connaissons tous.
Et en fait, je disais là tout à l'heure que c'est poignant quand on regarde comme spectateur. Je trouve que c'est une vraie épreuve parce que le film n'est pas du tout noir, même si effectivement il montre au début la misère et d'ailleurs c'est un témoignage aussi sur le fait que les Juifs, contrairement aux clichés antisémites, étaient très pauvres. Enfin, en tout cas en Pologne, dans les
absolument,
villes,
vivaient, étaient
misérables vraiment.
Par contre, il y a une chose qui est amusante, c'est qu'il y avait un petit prologue qui avait été fait pour chaque pays où le film devait être montré, et nous avons retrouvé le prologue américain qui est présenté en bonus. Et dans ce prologue américain, à l'évidence, les gens qui ont fait venir le film et qui se sont chargés de le faire circuler sont des gens de l'establishment. Ils sont très bien habillés, ils sont dans un endroit apparemment extrêmement luxueux, et si le film, qui est le film qui a été produit en Pologne, montre lui un monde de misère, le prologue est à l'évidence la preuve que cette démarche ne s'adresse pas aux miséreux. La démarche de crowdfunding, comme on dit aujourd'hui.
Et en fait, quand on voit ce film et les autres aussi, mais alors sur celui-là, c'est particulièrement, je trouve, poignant parce que... Tous ces enfants, on se dit que la plupart, ils vont finir... Assassiné quelques
Alors,
années
réalité,
plus tard.
La réalité, c'est que ça a été tourné en 1935. Le film a été terminé en 1936. Donc, il est probable que ces enfants n'étaient plus dans le sanatorium
en 1942.
Mais évidemment, c'est ces enfants qui étaient en Pologne se sont battus et qui, pour la plupart, probablement n'ont pas dû survivre.
Alors, certains d'ailleurs se sont battus dans le ghetto de Varsovie.
C'est ce que l'on a raconté, effectivement. Mais je n'en sais malheureusement rien.
Et alors, les autres films. C'est la même chose, c'est-à-dire que ce sont à la fois des témoignages, même quand c'est de la fiction, c'est des témoignages d'un monde disparu, et en même temps, on a l'impression que déjà, ils annoncent parfois la catastrophe à venir. Enfin, il y a des allusions à l'actualité dans l'e-book, par exemple, là, au début, quand il y a un fidèle à la synagogue qui dit « il faut éviter de faire des projets d'avenir » parce qu'il y a... C'est l'histoire du D-Book, hein, donc sur deux amis d'enfance de yeshiva qui veulent unir leur futur enfant à naître. Et donc, bien sûr, la promesse sera trahie par l'un des deux, et d'où le D-Book, etc. Je ne vais pas raconter l'histoire, mais dans TV aussi, le laitier, pareil, il y a des allusions à l'actualité, d'une certaine façon, indirecte, avec TV, par décret du tsar, et chassé de son village, alors qu'il est là depuis très longtemps et que c'est un homme bon, etc. Et voilà, je trouve que c'est quand même une particularité de ces films, au-delà de leur intérêt documentaire, c'est voilà... Nous...
Ce sont aussi des films très théâtraux qui sont inspirés par le théâtre juif. Ce sont tous
Alors, pouvez-vous en parler, notamment évidemment. Du D-Book
Le D-Book est un film qui, en fait, est inspiré par la démarche de Chalomansky qui, en 1914, se rend compte que l'urbanisation va détruire quelque part une culture, qu'elle va se dissoudre. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Et du coup, il décide d'aller enregistrer avec les moyens de l'époque la vie. Avec des appareils photo, il va enregistrer les légendes, la manière de vivre, etc. Et il va décider de mettre tout cela, de mettre ses traditions, ses coutumes, dans une pièce qui s'appellera le D-Book. Et qui est d'ailleurs l'une de ses légendes. Il meurt en 1920 alors que sa pièce n'a pas encore été jouée. Et la pièce va être un succès absolument phénoménal à Varsovie, au point même qu'elle va aller dans le monde entier. Ça va devenir le standard, l'alpha et l'oméga de la pièce de théâtre yiddish en 1937
qui va inspirer aussi le violon sur le toit, on peut le dire.
Absolument. Ça c'était Vieille qui va inspirer le violon sur le toit.
Ah, pardon. Ouais,
mais le D-Book va être donc tourné par Michal Wazinski en 1937 dans un Varsovie ultra antisémite, dans des conditions absolument épouvantables. Mais ça va être un film tout à fait incroyable qui va être quelque part la recollection de tout ce qu'aura été la vie dans ces shtetls au milieu du 19e siècle, tel qu'observé par Chalomansky en 1912 et tel que reproduit en 1937 à l'époque contemporaine du tournage du film. Le film est éblouissant. Il a une particularité, c'est que dans les années 80, évidemment, il est sorti une première fois et beaucoup l'ont vu à ce moment-là. Simplement, il est sorti à partir d'éléments techniques tout à fait médiocres. Vous vous souvenez peut-être, si vous l'avez vu, que l'image est toute noire, que le son est abominable, qu'on n'entend rien, et on se dit, oh là là, à l'époque, dis donc, le cinéma, ça devait pas être rigolo. Eh bien, la réalité, c'est qu'à l'époque, le cinéma, il était neuf et qu'aujourd'hui, si on restaure les films, il n'y a pas de raison que ces films ne soient pas à nouveau confortables à regarder et confortables à entendre. C'est ce que nous avons fait sur les quatre films qui sont... éblouissant de luminosité, de netteté d'image, mais surtout d'un confort d'écoute absolument incroyable. Alors on peut écouter, on entend des différences quand on passe d'une copie à l'autre. En réalité, il y a parfois 3, 4, 6 mois de travail pour restaurer un seul film. Mais je vais vous dire, on n'a pas compté. On y est allé complètement. Ce sont tellement des axes, des repères pour nous, pour notre culture, qu'on s'est dit que c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps et qu'il fallait vraiment être à la hauteur du rendez-vous. Comme l'a dit...
C'est le cas, le résultat est
comme l'a dit Léo Bronstein, ça nous a peut-être coûté beaucoup, beaucoup d'argent et ça a laissé un trou financier énorme, mais c'est un trou qui comble un vide. Et rien que ça, c'est quand même quelque chose de fondamental.
Alors, ce qui est intéressant dans ces deux films... le D-Book et puis TV Le Laitier. Alors le D-Book, le sous-titre, c'est Entre deux mondes. Et alors c'est vraiment typique de toute la littérature d'ailleurs yiddish de la première moitié du XXe siècle, hein, ou même de la deuxième, enfin Bashevis Singer aussi est sur ces thématiques-là, c'est-à-dire comment le choc de la modernité, quoi, comment le monde juif traditionnel s'ouvre, s'ouvre et... On a vraiment la même chose dans TV Le Laitier, puisqu'il s'agit d'un père qui est confronté au choix de sa fille d'épouser un chrétien et de se convertir, en fait. Et on a cette question de l'assimilation qui semble être la pire des choses, finalement.
Ah, c'est bien compliqué tout ça. En fait, l'auteur et l'interprète principal de TV Le Laitier était l'une des grandes vedettes du théâtre juif à New York. Alors, New York, c'est un film américain d'ailleurs. Donc New York, c'est l'endroit où de la modernité, le moment du progrès. Et lui, il était acteur au théâtre yiddish où il proposait à des gens qui venaient probablement un peu âgés déjà, qui venaient d'Europe de l'Est, il était le continuateur de leur tradition et de leur langue. Donc quelque part, j'ai le sentiment que c'est effectivement un film où se pose l'éternel problème qui se pose à tout le monde, de savoir à quel moment il faut savoir oublier un petit peu d'où l'on vient pour essayer de progresser vers l'avenir et vers des cultures plus ouvertes. Alors c'est vrai que Thévier, il a deux filles, il a une fille qui part avec un cosaque et qui évidemment n'est pas juif, et donc c'est la fin du des thèmes les plus fondamentaux qui nous mènent tous, voilà, comment maintenir une identité, maintenir des traditions, maintenir une culture. On peut pas dire que ce soit un film particulièrement avant-gardiste, hein, c'est même un film très théâtral, mais c'est tellement inscrit dans l'année 1939, rendez-vous compte que ça a été tourné en 39, que certains acteurs sont venus d'Europe de l'Est pour tourner dans le film. C'était un truc absolument incroyable. C'était tourné dans le New Jersey et dans des endroits qui ressemblaient un peu à la Pologne. Donc c'était pour ça que c'était tourné là-bas. Et il se trouve que, comme on est dans un monde moderne, il y avait des avions. Et les avions, c'est très ennuyeux pour le cinéma sonore parce que ça fait du bruit. Et du coup, le tournage a pris beaucoup plus de temps que prévu. Et les acteurs qui devaient rentrer en Pologne à l'issue du tournage ont dû rester à New York pendant 2 ou 3 mois de plus, histoire de terminer le film. 2-3 mois de plus, c'était suffisamment pour qu'on leur dise, écoutez, là, il vaut mieux ne pas rentrer si vous tenez à votre vie. Et c'est probablement Thévier Le Laitier qui leur a sauvé la vie. Voilà, oui, c'est le genre d'histoire où la vie...
Les conditions de production sont déterminantes.
La petite histoire du cinéma qui rejoint la grande. La réalité, c'est que ce coffret, ces 4 films, c'est un voyage dans un temps passé qu'on n'a plus l'habitude d'évoquer au présent. Et quand on le voit finalement, et c'est pour ça que les films sont restaurés comme cela, il s'agit de ne pas enrober cela d'un discours universitaire, théorique, etc., mais de dire voilà ce qu'ont vécu nos parents, nos grands-parents, voilà les films qu'ils ont vus et voyons-les comme eux les ont vus aussi. Ça nous apprendra et ça nous permettra peut-être de nous rapprocher de qui ils étaient et à l'époque évidemment où ils ont regardé les films. Je voudrais dire aussi que un travail comme ça qui a pris pratiquement 3 ans nécessite des partenariats, des travaux d'équipe absolument incroyables. J'ai cité tout à l'heure la Cinémathèque de Berlin, la Cinémathèque de Varsovie. Alors on a 2 grands historiens et de grands camarades qui nous ont accompagnés dans la production. C'est Éric Leroy qui est par ailleurs le directeur des archives du film et Samuel Blumenfeld qu'on ne présente plus. Mais on a également travaillé avec toutes
qui a rédigé le journaliste au Monde, qui a rédigé une partie du livret. C'est
absolument
très intéressant d'ailleurs.
On a travaillé aussi avec Brandeis, avec la Cinémathèque de Tel Aviv, la Cinémathèque française, le Centre National du Cinéma qui nous a donné énormément de matériel qu'ils avaient fabriqué, le Centre MEDEM qui s'est retrouvé, qui est en réalité le propriétaire de Mirko Menon et qui ne le savait pas tout à fait. Enfin voilà, en fait, en avançant dans ce projet-là, on a découvert non seulement qu'il y avait des pans entiers de cette histoire qui était méconnue, mais qu'au fond, toutes les bribes des histoires étaient là, elles étaient à la portée de notre main et qu'il suffisait de l'attendre pour pouvoir retrouver et partager à nouveau ces moments de temps et d'images. Vous verrez, c'est une expérience qui est au-delà des mots. Fondamentalement, c'est pas un coffret de DVD, c'est de la vie, quoi. C'est 10 heures de vie.
Justement, tout ce cinéma américain qu'on connaît peu finalement en France, hein, ce cinéma yiddish d'avant-guerre, je suppose qu'il y a d'autres films qu'on pourrait...
Oui, c'est vrai, il y a eu une très grande production, mais pas si énorme que ça. En tout et pour tout, le cinéma yiddish, c'est environ 120 films. Vous voyez, ça fait 20 ans de production dans 3 pays, et ça ne fait que 120 films, donc c'est pratiquement
donc,
rien.
L'âge d'or, c'est les années 30, c'est ça?
C'est les années 30. Tout le cinéma tourné en Pologne a été détruit, hein, il en reste pratiquement rien. Il y a encore des films de Molly Picon, ça on s'en souvient un petit peu, et on a beaucoup hésité à inclure les films de Molly Picon dans ce coffret, mais il nous a semblé important d'abord de fonder des repères, de trouver des moments importants. Et puis après la guerre, évidemment, il n'y avait plus rien en Pologne. On a tourné en Amérique, on a continué à tourner. Il y a un grand réalisateur qui s'appelle Edgar J. Ulmer qui a fait un très grand nombre de films. Et ce qui est amusant, c'est que Edgar J. Ulmer, qui a fait des films noirs après, des tours, etc., ne parlait pas un mot yiddish. Mais il fallait bien manger. Et donc, il a réalisé des films avec des acteurs yiddish. Et peut-être dans une prochaine édition, on en mettra 2 ou 3. Voilà, on est parti en tout cas à cette redécouverte. Je pense qu'on a là les 4 grands axes et les 4 grands piliers. Le dernier film qui s'appelle Lang Is Der Weg est un film qui a été tourné en 1949 par des Allemands, mais aussi avec des rescapés des camps, pour raconter ce qu'a été la vie des familles et ce qu'elle était en 1949, au moment où il s'agissait de choisir où serait le destin, et pour certains d'entre eux et d'entre nous évidemment, de partir vers Israël.
Un film incroyable, hein, quand un film on regarde aujourd'hui.
C'est même pas bouleversant, quoi. C'est totalement fou. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a un regard qui est déjà une parole rapportée d'une parole reçue. Lorsqu'on évoque la Shoah, lorsqu'on évoque la guerre, on est à travers les images, etc. Or là, ce sont des gens qui, en 1949, rejouent ce qu'ils viennent de vivre, et qui va d'avant la guerre, pendant la guerre, la vie dans les camps, la vie dans la fuite, et surtout la vie après, l'espoir, la naissance des premiers enfants dans les camps libérés. C'est un film absolument bouleversant, avec une petite dimension en plus, qui est que nous avons utilisé pour cette restauration une copie déjà sous-titrée en français, restaurée par le CNC, et donc il y a les sous-titres d'époque, tels que les gens l'ont vu à l'époque, avec des sous-titres faux, avec parfois 10 minutes sans sous-titres. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mec qui sous-titrait s'est endormi. Mais je suppose qu'au cinéma à l'époque, bah, c'était pas l'électronique, les vérifications, c'était beaucoup moins pro. Et donc on est encore plus près de la vie. C'est-à-dire, on est entre le cinéma de quartier, le cinéma de mémoire et un témoignage évidemment absolument unique.
Et puis un mot aussi sur tous ces films sur les maisons d'enfants de l'IGRE, de la CCE, qui sont aussi...
Absolument. Alors en fait, après la guerre, il y a eu de très nombreux témoignages, de très nombreux films qui ont été faits. Évidemment, la CCE, l'UGRE et d'autres organismes qui ont tous participé, je dois dire, et nous ont beaucoup aidés dans toutes ces démarches-là. C'est des films qui se ressemblent, des films qui montrent qu'il y a un espoir, qu'il y a un avenir, qu'il faut se battre, qu'il faut apprendre la modernité, mais ne jamais oublier de rester nous-mêmes. Je crois que le message, finalement, il était valable en 1946, 47, 48. Il est encore valable aujourd'hui.
Ce qui est intéressant, c'est que cette volonté d'ouverture, enfin, cette ouverture du monde juif traditionnel, on la retrouve aussi chez les cinéastes qui ont le souci de que ces films, la diffusion de ces films, ne soit pas limitée finalement à la communauté juive, et donc qui vont engager des réalisateurs polonais, non-juifs.
Je suis très content que vous disiez ça.
Que ce soit Alexander Ford pour Mirko Menon ou Michal Wachinski, ouais. Etc. Il y a une volonté déghettoiser, quoi.
Absolument, déghettoiser, mais ce qui est incroyable, c'est que c'est exactement notre démarche aujourd'hui avec ce coffret. C'est-à-dire que, évidemment, c'est un coffret qui s'adresse à notre communauté, mais par-delà cette communauté, ce sont de très grands films, et notre ambition est justement de montrer que ce cinéma yiddish, ce n'était pas un sous-cinéma, c'était du cinéma, du grand cinéma, et que à travers cette langue, dans cette langue, on a fait des grands drames, on a fait des grands films religieux, on a fait des grands films mémoriels, on a fait à peu près tout. Je pense que bientôt on montrera qu'on a aussi fait de très grandes comédies. Voilà, c'est effectivement, je ne suis pas quelqu'un qui aime les ornières. J'aime bien lorsque je montre quelque chose de beau, le faire partager au plus grand nombre. D'ailleurs, c'est très compliqué.
Vous pensez que vous allez arriver à avoir une diffusion un peu plus large que le public des associations yiddish en France?
Alors disons qu'il y a une condition nécessaire et une condition suffisante. La condition nécessaire, c'est que les films existent. Donc celle-là, elle est remplie. Elle n'est pas suffisante, malheureusement. Et donc il va falloir pousser le bouchon beaucoup plus loin et essayer de montrer les films un petit peu partout. Alors sûrement, on va pouvoir repasser probablement un film sur Arte, un film sur France 3, je sais pas, on va essayer de voir.
En salle aussi, pourquoi pas.
En salle, pourquoi pas, mais alors la salle, ça va être très compliqué. Mais ceci dit, pourquoi pas. Et c'est vrai qu'en 1980, lorsque Elisabeth Lanchner a ressorti le D-Book, il y avait un public en salle pour ça. Aujourd'hui, le public en salle pour le film de patrimoine est rarissime. On vit à l'ère du numérique, des DVD, du online et de ces choses-là. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais pourquoi pas. Et c'est quelque chose qu'on a évoqué. Ceci dit, on est en France, il y a le besoin de faire vivre ces films dans le monde entier et la demande est très forte. Nous avons le London Film Festival qui va en prendre, Toronto voulait en prendre quelques-uns, évidemment en Israël les films vont beaucoup circuler, et je crois que pour nous c'est un moyen de faire ça, est un moyen de libérer la parole, de quelque part d'ouvrir cette boîte de vie et de souvenirs pour que les gens puissent venir y piocher empêcher. C'est simple, quand on ne met pas de menu à l'entrée d'un restaurant, personne ne rentre. Là, c'est quelque part une manière de dire, regardez, ces films, ils sont là, ils vous tendent les bras, à vous de les accueillir. Et après, c'est vrai qu'on a fait notre partie du chemin, c'est à chacun de faire la sienne, de partager, c'est un travail de fond. Mais je suis absolument certain que ces films ont regagné une petite éternité de vie et je l'espère auprès des en dehors de cette petite ornière, c'est un peu péjoratif, évidemment pas une ornière, mais en tout cas au-delà de notre seule communauté.
Bon, je pense aussi, enfin en tout cas, j'invite les auditeurs à se procurer ce coffret trésor du cinéma yiddish, donc qui vient de paraître.
Eve, je dois vous dire que ce film, personne ne quand on l'a fait par évidemment par pure foi. Le nombre de gens qui sont venus nous le demander pour le partager depuis, ça fait un mois qu'il est, c'est absolument éblouissant. Dans la boutique, quand on est en boutique, les gens rentrent, mais toutes les 10 minutes, il y a quelqu'un qui rentre en disant « Est-ce que vous avez le coffret ?» Oui, on l'a. On sait déjà lequel ils vont demander.
Votre travail est déjà bien récompensé.
Mais c'est ça la plus belle récompense.
C'est combien d'années de travail, d'heures de travail, je sais pas.
Alors, pour tous ces gens qui ont conservé ces films depuis les années 30, c'est évidemment des décennies et des décennies de conservation. La restauration elle-même a duré à peu près 2 ans et demi pour une équipe de 8 personnes. Donc vous voyez, c'est un travail absolument
à temps plein,
dingue.
Merci encore donc Serge Bamberg. Donc je rappelle que vous venez donc de faire paraître un coffret trésor du cinéma yiddish avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. C'est vraiment un beau cadeau à offrir à tous les amoureux de la langue et du cinéma yiddish. C'était Mémoire Vive. Deux adresses pour nous retrouver, www.radio-rcj.info, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.